Alors bonsoir à toutes et à toutes. Merci d'être présents ce soir pour cette conférence autour du livre Révolution qui vient d'être publié aux éditions Belin. Et nous avons le plaisir donc de recevoir Mathilde Larère qui a coordonné cet ouvrage. Donc Mathilde Larère, vous êtes agrégée, docteur, maître de conférence à l'Université Paris-Est de Marne-la-Vallée. Et comme la plupart des autres auteurs, et vous êtes spécialiste de l'histoire des révolutions du 19e siècle français. Je voudrais, avant que l'on commence, citer les autres auteurs qui ont participé à ce bel ouvrage. Donc, il y a Maud Chériot, qui est agrégé docteur spécialiste de l'histoire contemporaine du Brésil. Félix Chartreux, agrégé doctorant spécialiste de l'histoire culturelle de l'Union soviétique. Vincent Lemire, agrégé docteur spécialiste de l'histoire de Jérusalem et du Proche-Orient contemporain. Et Eugenia Paliariaki, docteur maître de conférence spécialiste de l'histoire politique de l'Amérique latine. Donc voilà, des personnes avisées pour faire un tel ouvrage. Donc jusqu'à présent, il n'existait pas d'ouvrage retraçant simultanément l'histoire des révolutions de manière à la fois chronologique et transversale, appuyée en plus par de nombreux documents iconographiques. Cela, on va s'en rendre compte, nous permet de rendre compte des spécificités de chacun de ces moments historiques, mais également des liens qui existent entre eux, et de lire ces événements à la fois dans leur ancrage local et dans leur résonance globale, comme le disait très bien Vincent Lemire. Donc cette transversalité se traduit dans l'organisation même de l'ouvrage qui se présente de manière chronologique, mais à l'intérieur de cette chronologie, des chapitres transversaux ont été insérés, tels que « Brandir la révolution »,« Quand la révolution fait peur » ou « Aux armes citoyens ». Donc avant de rentrer un peu plus en profondeur sur le livre, j'aimerais que l'on revienne sur ce terme de révolution. La définition qui nous intéresse ici, c'est celle qui renvoie à un changement soudain, brusque de l'ordre social et moral et qui implique une transformation totale de la société, transformation exigée par la souveraineté populaire. Et c'est un mot qui est apparu au XVIIe siècle avec le mouvement ouvrier britannique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'apparition de ce concept de révolution ?
Oui, alors ce qu'il y a, c'est que quand le mot apparaît en Angleterre, en fait, il n'apparaît pas dans ce sens-là. Parce que le mot apparaît pour désigner la deuxième révolution anglaise. Et en fait, si les contemporains appellent cet événement la Glorious Revolution, c'est en fait pour reprendre le terme astronomique de révolution, c'est-à-dire la révolution des astres, le retour de l'astre à son point de départ. Et parce que donc en Angleterre, ce qui se passe, c'est quand même le renversement d'une monarchie qui était en train de devenir absolue, qui était en train en plus aussi de se lier à nouveau avec la papauté, ce qui ne plaisait pas beaucoup aux élites. Et cette monarchie est renversée par un mouvement qui... Il y a des éléments populaires, mais bon, c'est quand même, ça ressemble plus à une guerre civile à ce moment-là. Et on met à la place une autre dynastie. Et en fait, s'ils utilisent le terme « révolution », c'est justement pour marquer ce retour. Le roi est toujours là, il n'y a pas de république. Ils ont été très traumatisés par la première révolution, qu'ils n'appellent pas du tout comme ça. Là, il y a eu instauration d'une république avec Cromwell. Et c'est parce qu'ils sont rassurés par cette révolution qui est assez rapide, qui n'est pas très populaire, qui se règle très vite entre les élites et qui permet à un roi de revenir. Et ils utilisent aussi ce terme parce qu'ils partent du principe qui est faux en philosophie politique quand on regarde l'ampleur de cette révolution, mais pour eux, ce sont les vieilles libertés médiévales, ancestrales, même de la noblesse anglaise, qui reviendrait après avoir été menacé par un roi absolutiste. Donc le terme est repris comme ça, et ce qui fait que dans la tradition anglaise, le terme révolution, il n'implique pas ce changement brusque, brutal, il n'implique pas cette idée de souveraineté populaire, même si, en fait, dans l'événement, on peut en trouver. Et c'est vraiment avec la Révolution française qu'il va prendre cette définition, qui par ailleurs évolue, de rupture, création d'un ancien régime, changement brusque, participation du peuple. Donc le mot apparaît pour désigner finalement autre chose. Mais c'est la première fois qu'il passe de l'astronomique au politique. Et à partir du moment où il rentre dans le politique, il va ensuite pouvoir suivre son chemin de mots et désigner la Révolution française.
Alors justement, dans ce cheminement, vous distinguez dans l'introduction du livre trois phases révolutionnaires, le 17e et le 18e, puis la fin du 18e et le 19e, et enfin le 20e siècle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce découpement et qu'est-ce qui caractérise chacune de ces trois phases ?
Alors, c'est vrai qu'on a fait ça parce que ça correspond à une réalité. En même temps, je pense qu'on y a beaucoup réfléchi. Si on a commencé avec la Révolution anglaise et bon, on termine avec la Révolution arabe parce que c'est la dernière, mais le livre, il y aura des nouveaux chapitres, à mon avis. C'est aussi parce qu'on considère que c'est une période unie. Hein, c'est-à-dire que c'est un fait révolutionnaire qui naît à ce moment-là, qui ensuite connaît un cheminement. Mais il y a d'abord une grande période hein, qui est 17e, début 21e siècle, et où la Révolution n'est pas morte et continue toujours à être là. Alors ensuite, à l'intérieur, on a essayé effectivement de diviser. Il est évident que la Révolution française fait une vraie coupure. Hein, donc bon, là, on est où on la met en valeur. Ensuite, pour le 20e, c'est beaucoup plus compliqué parce que 17 fait coupure aussi, c'est l'apparition d'une révolution qui n'est plus que sociale. En gros, la révolution anglaise est un petit peu la révolution américaine, ce qu'on va appeler des révolutions de la liberté, c'est des révolutions qui sont essentiellement libérales et qui ont très peu de dimension sociale. La phase suivante, qui commence avec la Révolution française et qui va courir jusqu'à la Révolution russe, va mêler du libéral, du national et accepter dans ses marges, tout en les combattant en permanence, les aspects sociaux. Avec la Révolution russe, le social s'impose comme central. Mais en même temps, donc, après on découpe, le 20e fait un peu bloc, mais à l'intérieur du 20e, c'est aussi complètement éclaté, parce qu'il y a les révolutions communistes, mais la révolution guévariste, la révolution maoïste, la révolution trotskiste, bon, qui ne se fait pas. Donc la révolution... Puis alors, il y a aussi cette dimension qu'il n'y a pas du tout au départ, hein, quand le religieux rentre dans le révolutionnaire, avec la révolution turque, puis la révolution iranienne, et la présence dans les révolutions arabes. Donc la période 20e, elle a un sens, parce qu'on peut toujours trouver des sens à des périodes et de fêtes, mais en même temps, elle est beaucoup plus éclatée que le 19e. Là, il est très resserré, le 19e, entre la Révolution française et la Commune. Bon, il y a une espèce d'évidence de fil directeur. Et on le voit aussi dans l'espace, c'est-à-dire que, bon, en gros, de la Révolution anglaise à la Révolution, à la Commune, c'est l'espace européen, hein, la Révolution. Elle se déroule, enfin, ou atlantique, mais elle est atlantique parce que c'est les colonies européennes, donc c'est quand même, ça reste très européano-centré. Alors qu'au XXe, elle est partout. Elle est à Cuba, elle est à Pékin, elle arrive en Turquie aussi. Donc il y a cette espèce d'éclatement géographique qui fait qu'on peut quand même distinguer. Donc c'est pour ça qu'à la fois, dans une grande période révolutionnaire qui n'est pas achevée, on a essayé, dans un souci de clarté, parce que ça correspond à des évolutions, des contenus idéologiques de la Révolution, de distinguer ces trois périodes.
Alors justement, dans ce grand mouvement révolutionnaire, vous parlez de certaines révolutions qualifiées de messianiques, qui sont notamment la Révolution française et la Révolution russe. En quoi ces révolutions sont dites messianiques? Quelles ont été les influences ensuite sur les révolutions qui ont suivi? Est-ce que voilà, vous pouvez nous expliquer un petit peu leurs particularités?
Ouais, c'est un vaste problème. Hein. Alors, en fait, ce dont on se rend compte de toute façon, c'est que toute révolution circule. C'est-à-dire que, exception faite de révolutions qui sont vraiment restées nationales, la nouvelle d'une révolution dans des espaces qui déjà sont connectés par des circulations d'idées et de personnes, souvent, ça donne une révolution ailleurs, parce que ça galvanise les gens, parce que de savoir qu'on a fait la révolution dans un pays donne envie de le faire dans un autre. Bon. La différence avec les révolutions messianiques, c'est qu'elles veulent se diffuser et qu'elles se donnent les moyens de se diffuser. Et donc, ça, toutes ne le font pas. Il y en a qui se diffusent naturellement, et d'autres, elles ont c'est quasi de la propagande. Hein. On commence à penser une propagande révolutionnaire. Alors, la première grande révolution messianique, c'est effectivement la Révolution française. Même si, en fait, de plus en plus, les gens qui travaillent sur la Révolution américaine se rendent compte qu'elle aussi, elle avait des aspects messianiques, notamment dans les espaces des colonies espagnoles ou dans les espaces des colonies françaises. Mais ça n'a rien à voir avec la Révolution française. La Révolution française, pas dès le départ. Au départ, elle n'est pas très messianique, mais à partir de 93-94, en fait, à partir du moment aussi où elle s'étend par les armes, hein, elle a vraiment ce désir de se diffuser. Alors, ça ne va pas donner un ministère de la propagande, ça ne va pas donner une internationale comme la Révolution russe, mais il y a cette idée que la France va se porter au secours des autres peuples et les libérer de leurs tyrans. Et alors, en plus, ce n'est pas tellement les Français qui ont commencé à vouloir que la Révolution française soit messianique, c'est plutôt les autres peuples, que ce soit les Bataves, que ce soit les Belges, que ce soit les Italiens, que ce soit les Suisses, qui, dans leurs États, n'arrivaient pas à faire de révolution, en souhaitaient une. voyaient ce qui se passait à Paris. Donc ils vont à Paris, ils rencontrent les gens, ils assistent à la Révolution et ils essaient de faire pression sur les ministères en disant « mais venez nous aider ». Et les ministères en France, l'Assemblée, hésitent un petit peu et finit par accepter cette idée de guerre de libération, qui a aussi ses intérêts. Parce que si une révolution est messianique, ce n'est pas seulement pour porter la liberté, hein, c'est aussi parce que plus elle s'étend, plus elle se protège, plus elle s'étend, plus elle peut récupérer aussi l'aide des autres. Alors, la révolution russe, elle aussi, elle a ce désir messianique un petit peu différent, et c'est surtout beaucoup plus organisé, parce que la révolution russe, elle va mettre en place un véritable parti mondial de la révolution, qui est l'international. Et elle a des révolutionnaires professionnels, des gens qu'elle envoie. En même temps, ce qui est très... qui est caractéristique, c'est que la révolution russe, elle a cet aspect messianique fondamental, mais au bout du compte, elle s'est finalement assez peu répandue en tant que telle, parce qu'elle échoue dans les années 20 à faire gagner la révolution en Europe de l'Est. Et ensuite, bon, l'international, elle joue dans la diffusion du projet révolutionnaire, mais concrètement, et même on voit dans la guerre d'Espagne, les internationalistes soviétiques, ils arrêtent la révolution espagnole au lieu de la promouvoir. Donc l'international a un rôle ambigu, un discours messianique et une pratique qui ne l'est pas vraiment. C'est parce que justement elle n'est pas assez messianique que les castristes cherchent une autre révolution, que les maoïstes en cherchent une autre, voilà. Mais c'est les deux grosses... Cuba a été très, très messianique aussi. Cuba a ce désir, derrière le Che. Le Che avait cette vision très messianique. Il part en Bolivie pour porter la révolution en Bolivie, en Amérique du Sud. Il va aussi, par la suite, il y a une tentative de messianisme aussi en Afrique du Nord. Donc les Cubains sont très messianiques.
Vous avez évoqué le terme de propagande. Alors, c'est plutôt un terme qu'on a tendance à associer au XXe siècle, avec notamment les régimes fascistes ou nazis. Mais Mao ou Khomeini ont également usé de la propagande. Est-ce que cette propagande a toujours existé sous différentes formes, bien évidemment, dans les révolutions? Et lorsqu'elle était présente, est-ce qu'elle était utilisée plutôt par les révolutionnaires ou par les contre-révolutionnaires?
Par les deux. Alors, si propagande, à partir du moment où on considère que donc, c'est la production d'un message qui a un but, mais on peut la trouver évidemment avant, et elle peut prendre des formes assez surprenantes. Par exemple, la propagande de la Révolution française, ils ont fait des éventails en représentant la prise de la Bastille sur les éventails, et ils ont vendu des éventails en Espagne. Enfin, en Espagne, ils ont bloqué les résultats parce qu'ils ont compris le danger, mais ces éventails de la prise de la Bastille se sont vendus dans toute l'Europe, et ça a permis la diffusion. Donc, ce n'est pas forcément des textes, mais ça peut être aussi des textes. Donc, on trouve ça, effectivement, dès le 19e siècle, quant au fait que, après, la propagande, elle est utilisée, oui, par les révolutionnaires comme par les contre-révolutionnaires. Parce que, de toute façon, à partir du moment où la révolution tend à s'étendre, ceux qui veulent la circonscrire dans le pays, dans son foyer initial, pour qu'elle ne renverse pas le pays dans lequel elle arrive, ils vont avoir une propagande contre-révolutionnaire. Et donc, c'est pour ça aussi que, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans le bouquin, c'est très, très connecté, parce que à chaque fois que la révolution se connecte avec d'autres espaces, ces autres espaces réagissent et se connectent aussi pour essayer de faire une prophylaxie anti-révolutionnaire un peu pensée.
Le chapitre, justement, « Quand la révolution fait peur », démontre très bien ce danger de la révolution, en fait, pour les autres pays qui n'étaient pas forcément touchés au départ, et les dispositions prises, en fait, par cette diffusion dans l'espace. C'est assez intéressant, effectivement, de voir la réaction des autres pays pour soit prévenir du danger ou alors essayer d'avoir une influence sur le pays en question.
Dès le début, il l'interprète en termes de contagion. C'est ça qui est incroyable, c'est que l'idée que la révolution est une maladie contagieuse, le premier qui fait ça, c'est le roi d'Espagne. Pourtant, le roi d'Espagne, il avait beaucoup contribué à faire circuler les idées des Lumières. Il n'était pas du tout contre les Lumières, il avait Rousseau, les textes de Rousseau, les textes de Voltaire avaient circulé en Espagne sans problème, il ne voyait pas le danger des Lumières. En revanche, dès juillet 89, il voit le danger de la Révolution française et il dit tout de suite, c'est son premier ministre qui dit, il faut faire un cordon sanitaire. Donc il y a cette idée que c'est une maladie, qu'il faut l'empêcher, et il bloque les frontières. Et lui, il arrête tout. Il arrête tous les gens qui arrivent de France, tous les écrits qui arrivent de France, mais aussi les éventails, tout. Il fait ouvrir les livres pour être sûr qu'il n'y a pas des trucs cachés. Enfin, c'est... Et les autres vont le reprendre, mais par la suite. C'est lui le premier à avoir cette... Et cette idée de cordon sanitaire, on la retrouve au XXe, le terme est utilisé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant les révolutions arabes, même dans des journaux qui, a priori, n'étaient pas défavorables aux révolutions arabes, on parlait de contagion. C'est un terme maintenant habituel, comme si la révolution, il y avait une contagion.
Un terme un petit peu négatif, en
un
fait.
Un petit peu,
pour,
ouais.
pour
Puis faux, en plus, oui. Parce que c'est pas une contagion.
Non, non, mais en même temps, ça témoigne assez bien de quand même d'un esprit révolutionnaire qui peut s'établir rapidement quand même, comme le montrent justement des mouvements révolutionnaires assez massifs qui vont toucher de manière successive un ensemble de pays. Je pense à 1848, aux années 68-70, les révolutions de velours de 89-91 et les révolutions arabes. Comment justement on peut expliquer qu'à certains moments, il y a eu cet élan commun, alors que quand on regarde de plus près, c'est ce que le livre démontre bien, si on regarde au cas par cas, les motifs d'insurrection et les modalités de la révolution sont différents. Pourquoi à certains moments de l'histoire, il y a eu cet élan commun ?
Alors, il faudrait presque le faire pour chacun, mais en même temps, si on voulait tirer des raisons qu'on retrouve, bon, d'abord, à chaque fois, les circulations se font dans des espaces qui, au préalable, sont déjà en contact les uns avec les autres, qui partagent la même culture politique, enfin, ils ont les mêmes lectures. Souvent, ils sont en contact économique. Hein. Mm-hmm. C'est des endroits où il y a des échanges économiques importants, donc des échanges de personnes, des échanges des flux de capitaux. Donc, les espaces existent déjà. Hein. La révolution, elle ne fait pas un saut comme ça dans des espaces qui ne sont absolument pas connectés. Première chose. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est la particularité de cette période, c'est qu'à partir du moment où le fait révolutionnaire existe, il est dans le champ des possibles des différentes familles politiques qui peuvent s'en emparer. Donc, et après, il y a un effet, c'est-à-dire que la connaissance d'un événement révolutionnaire à un endroit, à partir du moment où dans un autre, il y a la possibilité de la révolution comme possible, il y a des connexions de personnes. Les personnes, c'est très important. En 48, on sait pourquoi ça se diffuse. En 48, c'est à peu près comme pendant la Révolution française, les révolutionnaires hongrois, berlinois, enfin romains, ils sont à Paris en 1848. Donc ils voient la Révolution parisienne, et dès qu'ils voient ce qui se passe, ils prennent leurs chevaux, leurs voitures, et ils repartent dans leur pays, et ils emmènent avec eux la Révolution. Et donc ils arrivent avec les textes, avec les récits, avec voilà, et on les voit, ils arrivent à Prague et ils mettent des affiches sur les murs de Prague en disant voilà comment on fait une barricade à Paris, eh bien faisons pareil, faisons comme les Français, on trouve cette phrase. Oui. Donc c'est aussi pour ça que ça se diffuse dans un temps et plus. Alors les révolutions arabes, là, ce qui a beaucoup joué, c'est que bon, c'est des espaces qui sont connectés, en plus très, tous regardaient la même télévision, Al Jazeera, qui a joué un rôle énorme en fait dans la diffusion, parce qu'elle a montré les images de ce qui se passait à Tunis, puis en Libye, puis en Égypte, et donc ça a servi hein. Bon, dans des espaces qui n'avaient pas cette connexion à la fois d'idées et dans des réseaux de communication, bah, ça ne s'est pas diffusé de la même façon.
Et justement, le rôle de la communication, on se rend compte à quel point il a été essentiel. Il a différé par ses moyens selon les époques. Mais justement, en quoi la communication est-elle à la fois un acteur et un enjeu pour les mouvements révolutionnaires et finalement pour les révolutions arabes, quel a été le rôle primordial, ou est-ce que ça a été un rôle primordial plutôt, de la télévision et des réseaux sociaux notamment, voilà, quelle place ça a joué?
Il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la diffusion des nouvelles et du contenu des révolutions. Et puis après, pour les révolutions arabes en particulier, ça on s'en rend compte, même que ce soit dans des mobilisations qui ne sont pas révolutionnaires, une manif ou quoi que ce soit, maintenant, c'est-à-dire que ça permet de donner rendez-vous, ça simplifie terriblement la mobilisation des gens. Rendez-vous place Tahrir à telle heure, pof, hein, les gens y vont. Donc ça a eu un rôle très très important pour ça. Que les autres médias avant pouvaient pas, avaient pas, il n'y avait pas cette immédiateté. Mais donc c'est là qu'il y a eu une différence. Hein. Et c'est pour ça que ça a été en plus encore plus massif et concentré. En même temps, la révolution de 48, hein, elle commence à, enfin, elle est à Paris le 24 février. Il faut le temps après que les voitures, les chevaux avancent. Mais en gros, on en a connaissance à Vienne le 9 mars. Hein, le 11 mars, Vienne est en révolution. Et le 13, c'est Berlin, Prague, Buda, Venise. Donc c'est quand même extrêmement rapide. Sachant qu'à l'époque, on n'a aucun moyen de communication. Il n'y a même pas de télégraphe. Hein, donc ça va quand même très, très vite, même en l'absence de moyens de communication modernes.
Tout à fait. Et est-ce que la communication au 19e ou au 18e servait plus dans la diffusion des idées, plus que dans les, comme vous venez de le dire, un petit tweet et on se retrouve à tel endroit. Est-ce que c'était plus dans la diffusion des idées, alors qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a conservé cette diffusion des idées en plus des modalités, on se retrouve à tel endroit, est-ce que ça s'est associé ou est-ce qu'au contraire, ça a été plutôt l'organisation qui a prévalu sur les idées?
Non, je pense que c'est les deux. C'est les deux. En même temps, au 19e siècle, l'équivalent du tweet, c'est le tambour. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment... On le voit, par exemple, en Belgique, hein, le début de la Révolution belge, parce que 1830 aussi, c'est une révolution qui s'étend. Donc, elle est en France 28-29 juillet 1830, et elle arrive fin août en Belgique. Et en Belgique, donc... Ce qui se passe, donc il y a un opéra, et cet opéra raconte le peuple espagnol sous le joug des Napolitains. Et donc les gens ont préparé le coup. Quand il va y avoir un air qui appelle les Espagnols à se rebeller, les nationalistes se lèvent dans la salle et disent « Faisons comme les Français, nous aussi, rebellons-nous contre les Hollandais ». Et ils sortent, et en fait, là, ils ne savent pas trop comment diffuser la révolution. Et il se trouve que sur la place de l'opéra, il y a un marchand de jouets. Donc ils rentrent. Et ils cassent la vitrine du marchand de jouets et ils piquent les tambours. Et ensuite, ils se promènent dans la rue avec les tambours, hein, les jeux, pour diffuser la révolution. Et toutes les révolutions, c'est ça. Le moment important, c'est récupérer les tambours, souvent aux forces de l'ordre. Parfois, on essaie même de récupérer les tambours avant de récupérer les fusils, pour diffuser la révolution. Et à l'inverse, les forces de l'ordre... Elles font très attention à ce que les tambours ne soient pas récupérés par la Révolution, parce qu'à Paris, si le tambour commence à être battu dans les quartiers, ils savent que les gens vont descendre et vont essayer de faire des barricades. S'ils arrivent à empêcher le bruit, il y a beaucoup moins de danger de diffusion.
D'accord. Donc chaque époque a eu ses...
Chaque époque a eu son
tweet. A trouvé ses moyens, exactement. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur notre histoire de France, où on se rend compte que la Révolution est quand même un thème récurrent. 1789, 1830, 1848, 1871, 68. Comment on peut expliquer en fait cette récurrence des mouvements révolutionnaires? Et est-ce qu'aujourd'hui, dans la transmission de notre histoire nationale, il y a une caution historique pour certaines révolutions plus que d'autres?
Alors, ce qui explique, de toute façon, je pense que ce qui explique, c'est que la Révolution... celle qu'on appelle la mère, enfin celle que Hugo appelle la mère de toutes les révolutions, elle est en France. Donc à partir de là, il y a cette espèce de... C'est le poids de la mère, enfin, vraiment. Et donc les différentes familles politiques, elles ont ça en héritage. Et quand on regarde les que ce soit les libéraux, les démocrates, les socialistes en France, ils sont révolutionnaires. Parce que, voilà, c'est aussi la tradition. Et donc, comme c'est des forces révolutionnaires, quand il y a la possibilité de faire la révolution, c'est dans leur champ, leur répertoire d'action, et ils font la révolution. Donc ça explique. Je ne me souviens plus, la deuxième question.
C'était pour la caution historique, en fait. S'il y avait des... Parmi toutes ces révolutions, est-ce qu'on se souvient de manière plus positive de 1789, par exemple, que de 68? Est-ce que, voilà, dans la transmission, dans la mémoire de révolutionnaire...
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on se souvient de façon positive de 89 et de façon négative de 93. Il y a un discrédit sur la phase sociale et démocratique de la révolution que l'on ne traite que sous l'angle de la violence et de la terreur, et dont on oublie les aspects démocratiques et sociaux. 1830 est très peu étudié. Ça a été complètement gommé. La plupart des étudiants, alors là, ils n'en savent absolument rien. 48, un petit peu plus, parce qu'il y a le suffrage universel, parce qu'il y a l'abolition de l'esclavage. Donc, il y a ces aspects un petit peu. Voilà. Mais sur la Révolution française, la façon dont est valorisé 89, dans les programmes scolaires, même du primaire, on enseigne aux petits que la Révolution française, c'est 1789-92. Ah bon, ça s'arrête en 92. Mais c'est impressionnant. Là, par contre, c'est très peu enseigné, la suite. Et alors, le directoire, n'en parlons même pas. Ils ne savent pas, absolument pas, que ça existe.
Et est-ce qu'il y a des possibilités avec les jeunes chercheurs d'aujourd'hui que les mentalités changent un petit peu par rapport à cette approche révolutionnaire, où c'est tellement ancré dans l'enseignement qu'on n'en démordra pas?
Mais à la fac, on fait de tout. Et c'est vrai qu'il y a énormément... Enfin, maintenant, il y a des travaux sur tout. Maintenant, le temps que ça passe dans les programmes scolaires et par voie de conséquence dans les manuels scolaires qui sont bien obligés d'appliquer les programmes, là, c'est plus long.
On a encore un peu de temps devant nous. Justement, vous avez parlé de la violence en évoquant la période de la terreur. On constate que la violence est un thème assez proche et souvent associé aux révolutions, pas toujours parfois provoquée par l'opposition, mais des fois par les gouvernements en place. À quel moment, enfin pour quelle raison plutôt, on peut assimiler autant la violence à la révolution, et pour quelle raison également bon nombre de révolutions ont débouché sur des guerres civiles, et quel est voilà ce lien entre la violence et la révolution?
Ceci, c'est une vaste question. Bon, déjà, la révolution, à la base, elle est illégale. Elle renverse un ordre établi. Donc, c'est quand même difficile de renverser un ordre établi sans violence. Surtout que suffit que l'ordre résiste un peu. Alors, c'est sûr que quand c'est face à des régimes qui sont autoritaires, tyranniques, la révolution qui lève le peuple contre le régime résiste. Et là, vous avez des combats, vous avez de la violence. Ça, c'est... Par ailleurs, il n'y a pas que les révolutions qui sont violentes. Hein. Les contre-révolutions sont violentes, la monarchie était violente, la Saint-Barthélemy, c'est violent. Enfin, l'histoire, c'est violent. Voilà. L'histoire politique est violente. Et les révolutions sont des moments de violence concentrés, surtout. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que, en général, dans l'histoire, la violence, c'est une violence d'État. Et d'un seul coup, c'est une violence du peuple. Donc, elle est plus inquiétante et elle focalise des discours plus négatifs. Donc, on voit plus la révolution, enfin, on voit la violence de la révolution. Mais c'est vrai qu'on va tout le temps parler de la terreur. Voilà, la terreur, 30 000 morts. En même temps, la terreur blanche qui suit la terreur et qui, dans le cadre du rétablissement de la monarchie, élimine les anciens révolutionnaires, elle fait aussi 30 000 morts. Mais on en parle beaucoup moins, parce que c'est la violence révolutionnaire qui impressionne, parce qu'elle a pris aussi des formes. Mais c'est pareil, les têtes coupées. Les têtes coupées, 14 juillet 89, on coupe les têtes du gouverneur sur la place de Grève. Mais si on regarde un mois avant, place de Grève, il y avait eu un condamné de droit civil qui avait été écartelé, tiré entre des chevaux, découpé en morceaux, et sa tête avait été coupée. Sauf que là, c'était la violence d'État. Donc, on la voit moins. Alors après, sur la question de la guerre civile, c'est ça, c'est-à-dire qu'une révolution renverse un ordre. Cet ordre résiste. Cet ordre a des supporters, hein, parce que sinon c'est les révolutions un peu miracles du 19e siècle. Quand il n'est pas soutenu, il n'y a pas de résistance. Mais l'ordre qui est renversé ayant des gens qui le soutiennent, après, la population se divise en deux et crée des situations de guerre civile.
Il y a un chapitre assez étonnant dans ce livre où on ne s'attendait pas forcément à avoir ce sujet-là. Ce chapitre s'intitule « Existe-t-il des droites révolutionnaires ?» et il s'intéresse aux bouleversements politiques liés au fascisme et au nazisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de ce choix, que j'ai trouvé pour ma part assez pertinent, et en quoi on peut vraiment parler de révolution, bien que les enjeux aient été un petit peu différents?
Alors, c'est pas nous qui avons eu l'idée, hein. La question des droites révolutionnaires, on en parle assez souvent, donc... on s'est demandé à un moment de savoir comment on le traitait, et c'est pour ça aussi qu'on a fait ce choix. On n'a pas voulu traiter des droites révolutionnaires ou du fascisme et du nazisme dans la progression chronologique de l'ouvrage. Il n'était pas question pour nous de faire le chapitre révolution russe, le chapitre guerre, et le chapitre nazisme, parce que sinon c'était vraiment dire que c'était une révolution.
Oui, tout à fait.
Donc on en a fait une approche transversale et thématique, et on se disait, est-ce qu'on va poser la question, existe-t-il des révolutions de droite? Non. En revanche, il existe des droites révolutionnaires, d'où ce titre. Donc c'est pour ça qu'on l'a construit de cette façon. Mais c'est vrai que de toute façon, on connaît tous l'affiche. Alors, ce qu'il y a, c'est que par ailleurs, c'est le plus mauvais exemple, parce que là, c'est vraiment pas une droite révolutionnaire. Mais on connaît tous l'État de Vichy disait que c'était la révolution nationale. Il y a des affiches où il y a écrit en gros révolution nationale. Et dans le nazisme, il y a des éléments, enfin, là, il y a reprise du terme très fréquent. Donc, on pouvait pas faire abstraction de cette question. Donc, on s'est dit, plutôt que de la contourner ou. On y va franchement et on l'aborde et on explique pourquoi tout à la fois il y a des droites révolutionnaires et en même temps il n'y a pas eu de révolution de droite.
Ce qui est intéressant, c'est de voir le point commun avec les autres révolutions, c'est le soulèvement des masses et le soutien et la popularité en fait de ces régimes au moment où ils ont été présents dans leur pays. Est-ce que ça veut dire qu'au final qu'importe finalement que ce soit de gauche ou de droite la dimension idéologique, est-ce que quand un pays est en crise, il suffit d'un leader fort avec une idéologie forte pour arriver à soulever les masses, ou est-ce qu'il y a quand même une question politique derrière qui est importante?
Oui, il y a quand même une question politique. Et puis en plus, il suffit pas. Bon, il se trouve que dans le fascisme et dans le nazisme, leurs caractéristiques, enfin, les deux sont des fascismes, hein, donc on va dire le fascisme, c'est justement d'avoir un leader. Ça fait partie de. À côté de ça, les révolutions arabes, il n'y a pas de leader. Hein. Enfin, la révolution n'a pas besoin de leader. On peut en avoir plusieurs, en changer. La révolution française a passé son temps à. Donc ça, c'est autre chose. Ce que ça montre surtout, c'est que. Il faut, pour savoir si on a affaire ou pas à une révolution, on est obligé de regarder tout un tas de critères. Mobilisation du peuple, irruption dans la rue, désir de changement de l'ordre. C'est pour ça qu'on peut se poser la question sur le fascisme, sur les fascismes, c'est qu'il y a quand même le désir de changer. C'est plus des révolutions culturelles, parce qu'en fait, ça ne va pas. Ça change l'ordre politique, oui, mais ça ne va pas changer l'ordre social. Et donc, on est obligé de regarder un certain nombre de facteurs. Et. Pareil, quand on se rend compte, une des caractéristiques des révolutions ou des périodes révolutionnaires, c'est que c'est des moments où les champs des possibles sont très ouverts. Or, dans le fascisme et le nazisme, au contraire, il y a une fermeture immédiate du champ des possibles puisque toutes les autres oppositions sont... Et là, ça permet de dire que ce n'est pas une révolution. Parce qu'une révolution, c'est un moment d'entre-choc, de métissage. Ça peut donner des conflits, évidemment. Mais c'est un moment où on ne sait pas ce qui va en sortir. Alors que quand il y a la prise du pouvoir par Hitler ou par Mussolini, on sait très bien ce qui va en sortir. Et là, on n'est pas dans une dynamique révolutionnaire. Donc, un événement peut partager un certain nombre de caractéristiques avec une révolution, peut même utiliser le terme de révolution. Et s'en revendiquer, parce que c'est hyper mobilisateur, une révolution. Et même dans toutes les cultures, ça peut être connoté positivement. Reagan a parlé de la révolution reaganienne. Le terme peut être utilisé, mais on est obligé de regarder tous les... C'est pour ça aussi que c'était super de travailler tous ensemble, parce qu'à chaque fois, on se demandait, là, on en a une ou pas, qu'est-ce qui nous permet ? Plus ça allait, plus on essayait de définir, plus ça se complexifiait, mais plus c'était... Ce qui nous a aidé pour les droites, c'est que quand même, Maud Chiriot, qui n'est pas là, elle est enceinte, donc elle ne peut pas se déplacer, elle est en fin de grossesse, elle travaille sur le Brésil, et au Brésil, le coup d'État qui a installé la dictature militaire s'appelle révolution. Donc elle avait cette espèce d'habitude que la révolution, elle était la plus sensible. Alors que je vois par exemple moi qui suis plus 19e-iste, pour moi c'était forcément contre-révolutionnaire. Enfin, la droite est contre-révolutionnaire, et c'est pour ça que c'était très important qu'on soit plusieurs auteurs, qu'on puisse en discuter pour que les 20e-istes apportaient aux 19e-istes et les 19e-istes apportaient aux 20e-istes. On passait notre temps en fait à s'enrichir et enrichir le concept.
Tout à fait. Et ça se ressent en tout cas vraiment dans le livre, donc le pari est réussi.
Chouette.
Justement, après, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'après-révolution, où on constate finalement que, qu'importe les révolutions, il y a eu une fragilité des régimes instaurés. Parfois, les révolutions ont généré même des prises de pouvoir des personnes qui étaient au départ leaders ou acteurs de la révolution. Je pense notamment à Khomeini pour la révolution iranienne. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ces après-révolutions ? Est-ce que l'on peut dégager en fait des conséquences au-delà des avancées sociales et politiques pour certaines ? Est-ce qu'on peut dégager des grandes lignes un petit peu de l'après-révolution ?
C'est dur parce que vous me posez des questions, il faudrait des heures pour y répondre. Déjà, c'est vrai, on a très vite décidé, tous, qu'on traitait des révolutions et pas des régimes révolutionnaires. Et qu'il était très important de faire la différence. Et de fait, dans certaines révolutions plus que dans d'autres, la révolution iranienne notamment, mais dans d'autres aussi, il est très important de distinguer la période révolutionnaire du régime qui en sort. Par ailleurs, ensuite, c'est très variable parce que la révolution américaine, elle a donné lieu à un régime qui est encore en place. La révolution anglaise, la monarchie, elle a mis ensuite, elle a évolué, mais elle n'a pas vraiment. Donc, il n'y a pas forcément toujours ensuite. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Parce que c'est un discours qui a été beaucoup tenu sur la révolution et c'est un discours qui a pesé dans la façon dont on a vu les révolutions arabes, comme si nécessairement toute révolution était un 89 qu'entraînait un 93, un printemps qu'entraînait un hiver. Et on l'a vu très vite dans les révolutions arabes. C'était un printemps arabe, mais forcément, il y allait avoir un hiver islamiste. Comme si c'était inéluctable que nécessairement la révolution allait mal se terminer dans un régime qui mobiliserait des éléments négatifs selon les cultures qui les regardaient. Donc, faut faire attention un peu à ça. Maintenant, objectivement, il est vrai que ce qui se passe dans une révolution, c'est ce que je me répète un peu, mais en même temps, c'est un peu ce qu'on a essayé de montrer. Dans ce champ des possibles, eh ben, il y en a un qui finit un petit peu par l'emporter. Mm-hmm. Et ben, voilà, c'est pas forcément le plus démocratique de tous qui l'emporte. Mais c'est pas propre à la révolution. Mm. C'est propre au rapport de force au moment où elle se déroule, aux conditions, au contexte. Là, c'est le local.
Tout à fait, oui. Et ce qui est intéressant, justement, voilà, on a pas mal cité les révolutions arabes. J'aimerais qu'on y revienne un peu plus en profondeur, même si je sais que c'est Vincent Lemire le spécialiste.
C'est lui le spécialiste.
Donc, on va essayer de ne pas vous poser des questions trop pointues. L'idée n'est pas de vous mettre dans l'embarras, mais juste peut-être de rappeler un petit peu le processus révolutionnaire qui existait déjà avant 2011. Est-ce que vous pouvez nous revenir un petit peu sur les trois grandes révolutions qui ont précédé le printemps arabe, pardon, et nous expliquer en quoi on peut d'ores et déjà parler de révolution. Et enfin, une dernière question, c'est un mouvement commun, mais est-ce qu'il y a des aspérités différentes dans chacun des pays qui sont entrés en révolution ?
Trois questions. Alors, d'abord, c'est vrai que on a commencé ce livre. Si on a choisi de faire ce livre, on est une bande de 5 copains, pour dire les choses. C'est pour ça aussi qu'on se connaît et qu'on a fait ce livre. C'était au moment des révolutions arabes. On en entendait parler. Et donc, on s'est dit, il faut absolument... On n'est pas des politologues, donc on ne va pas expliquer ce qui se passe sur le terrain, mais on va montrer en quoi ces révolutions s'inscrivent dans une histoire. Mmh. Et cette histoire, qui, elle peut être très très large, comme elle peut être large dans l'espace et dans le temps, comme elle peut être
très
beaucoup
plus
resserrée. Mmh. Sur les révolutions arabes, on peut dire plusieurs choses. D'abord, même si on reste dans l'espace arabe, les révolutions arabes, elles s'inscrivent dans une histoire du Moyen-Orient, du Maghreb, du Mashrek, du monde méditerranéen révolutionnaire, avec des révolutions qui ont lieu à la fin du 19e siècle. D'ailleurs, là, en Tunisie, ça s'appelle la Narda. Enfin, la première, maintenant, il y a le mouvement Ennahda, mais la première révolution, c'est Narda. Et c'est 1860-70 qui sont des conséquences des révolutions, qui sont des appropriations et des métissages des révolutions européennes. Donc, elles ont des aspects libéraux. On en a traité une, on les a pas toutes traitées, mais on en a parlé, par exemple, dans le chapitre sur la Turquie, qui est vraiment, on le voit bien, le legs français est très présent. Le mouvement est créé le 14 juillet 1889. C'est les loges maçonniques qui servent de croix de transmission. Donc, il y a ce premier moment révolutionnaire. Après, il y a un deuxième moment révolutionnaire très important, qui est le moment révolutionnaire des indépendances, le moment révolutionnaire des années 60-70, ce qu'on appelle le deuxième moment de la révolution, et qui est une synthèse entre la révolution libérale, type 19e siècle en France, et la révolution sociale, type russe, et qui opère cette synthèse, qui permet en fait d'arriver à faire en plus une révolution qui se sépare de la puissance colonisatrice, qui est à la fois la puissance colonisatrice et le legs révolutionnaire libéral. Donc, la synthèse permet aussi de marquer la différence avec le colonisateur. Donc, il y a cette phase révolutionnaire qui donne les indépendances. Hein, c'est le moment des indépendances, qui à ce moment-là est laïque, par ailleurs. Ce sont des révolutions laïques et c'est des révolutions pan-arabes.
Ce qui est important préciser pour la suite.
Voilà. Et alors, ensuite, il y a un objet un peu particulier, mais qui va se réintégrer dans cette histoire, qui est la révolution iranienne, qui reprend la synthèse libérale, sociale, mais qui rajoute la religion, qui donc opère une nouvelle synthèse complexe. Et elle tisse des liens avec la révolution turque, qui s'était déjà posé la question du religieux dans le révolutionnaire, mais l'avait tranché par le laïc. Donc on a cette révolution iranienne. Et puis là, les révolutions arabes, qui en fait donc sont la reprise dans la suite de cette histoire, reprennent le legs libéral qui est à la fois européen, mais qui est donc aussi africain, puisque ça vient des révolutions de la fin du 19e siècle en Afrique et dans le monde méditerranéen, qui reprend la dimension sociale, mais qui ajoute la dimension religieuse et qui donc opère cette synthèse, mais ne l'opère pas de la même façon que dans la révolution iranienne. Et par ailleurs, les révolutions arabes, c'est pas des, mais comme aucune révolution, hein, c'est pas des coups de tonnerre dans des ciels sereins. Ça faisait, quand on est enfin en Tunisie, il y avait des mouvements sociaux, des mouvements, il y avait des grandes grèves dans le sud tunisien. C'est des espaces qui étaient agités par des mouvements qui n'étaient pas révolutionnaires, mais qui expliquent, comme la Révolution française, au XVIIIe siècle, il y a des rébellions en permanence, une augmentation de l'agitation. C'est jamais, ça n'explose jamais dans un contexte calme, une révolution.
Et donc, pour ce qui est de ce mouvement commun et des différentes aspérités pour chacun de ces pays-là, est-ce qu'on constate en fait des aspérités différentes ou est-ce qu'au contraire c'est vraiment le même
dans les révolutions arabes?
Dans les révolutions arabes, oui.
Parce qu'il y a, c'est que chacune est quand même très différente. Il y a des, à la base, il y a quand même le désir de renverser des régimes qui viennent d'ailleurs de ces indépendances, qui sont devenus des régimes autoritaires et dictatoriaux, qui ont fermé leurs oppositions. Donc là, il y a des points communs. Mais après, les formes qu'elles peuvent prendre, certaines sont plus rurales que d'autres, certaines mobilisent pas forcément les mêmes couches de la population, selon la réaction des régimes aussi. C'est-à-dire que c'est la réaction des régimes qui va entraîner la militarisation des révolutions libyennes et syriennes. Donc après, c'est tous ces éléments qui jouent, la structuration préalable des oppositions ou pas. En l'absence d'opposition structurée, effectivement, les seuls qui étaient structurés, c'était les islamistes. Donc c'est eux qui arrivent à récupérer un petit peu la révolution, du moins un temps, parce qu'on voit que dans le cas égyptien, c'est complexe. Donc après, c'est vraiment des éléments locaux qui se mettent en place.
J'ai une question qui me vient à l'esprit, qui n'est pas forcément évidente, je le reconnais.
C'est pas la première.
Par rapport justement à la militarisation en Libye et en Syrie, est-ce que le monde occidental doit intervenir? Alors, je ne vous demande pas de prendre parti ou pas du tout, mais est-ce qu'une intervention d'autres pays dans ces mouvements révolutionnaires est nécessaire? Je pense notamment en fait à l'exemple de la Grèce quand elle s'est insurgée par Condon contre l'Empire ottoman, où il y a eu un soutien des autres pays avec des raisons finales qui étaient d'anéantir l'Empire ottoman, et c'était pas du tout pour soutenir la révolution qu'ils essayaient d'ailleurs de taire dans leur propre pays. Mais est-ce que c'est un véritable enjeu dans ces révolutions là la proximité avec les pays occidentaux, ou est-ce que c'est une aide ou pas possible pour l'opposition? Je suis pas très claire peut-être.
Non, mais c'est surtout que c'est extrêmement compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on regarde, enfin, là je vais plutôt répondre en historienne, mais quand on regarde historiquement les interventions extérieures, c'est quand même toujours des phénomènes de dérévolution au sens d'arrêt de la révolution.
D'accord.
Donc alors qu'il puisse y avoir des considérants, soit économiques, soit géostratégiques, soit humanitaires. Mais en tout cas, ça n'a jamais vraiment... Je ne vois pas d'exemple où
ça a jamais soutenu les mouvements révolutionnaires au départ.
Non. Bah, sauf dans les logiques messianiques révolutionnaires françaises, où de fait, l'arrivée des armées du directoire en Italie, en Belgique et en Hollande, bah, là, elle pousse la révolution, mais parce que c'est un pays révolutionnaire qui arrive.
Fait.
Pour les révolutions arabes, là, c'est extrêmement compliqué.
Oui, et puis on ne sait pas encore l'issue.
Non.
On en a encore pour plusieurs années avant de...
Enfin, moi, si on regardait l'Europe 2 ans après la révolution ou 3 ans après la révolution de 1948, on se dirait, mais quelle catastrophe cette révolution. Si on regardait même en 1991, il faut laisser le temps aux révolutions. On ne peut pas regarder simplement là, maintenant, et dire la révolution égyptienne, elle est foutue, elle est ratée, c'est un échec, parce qu'il faut lui laisser le temps de faire son processus de transition. La révolution française, quelque part, elle a presque mis un siècle.
Hein, oui, tout à fait. Avant qu'on arrive à une république,
ça,
c'était donc, pas tout de suite.
Hein. À une république aux libertés qu'elle avait proclamées, il y a eu des allers-retours.
Et puis voilà.
Toute révolution, il y a des phénomènes contre-révolutionnaires après.
Et pour quelles raisons, justement, au regard de l'histoire, on n'a pas ce recul par rapport aux révolutions arabes qu'on voit parfois déjà condamnées par les médias ou par...
Les historiens, ils l'ont, ce recul.
Oui, non, mais c'était plus par rapport aux médias, pardon.
Ouais, les médias, ils n'ont pas forcément de formation historique, mm-hmm. ça leur ferait parfois pas de mal d'en avoir un petit peu. Et puis après, y a aussi, je pense qu'il y a une volonté, comme pour... Là, on est dans une phase, même si c'est très complexe, hein, mais où des partis islamistes ont pris... ou ont pris le pouvoir, ou le contestent, ou essaient de le prendre, et qu'il y a un discours négatif, mm-hmm. C'est... Je pense que ça joue aussi. Hein.
Je voulais justement, on a parlé de l'Afrique du Nord. D'autres pays d'Afrique ne sont pas cités dans le livre. Ça m'a un peu intriguée. Je voulais savoir pour quelles raisons est-ce qu'il y a eu des révolutions dans d'autres pays africains et pour quelles raisons elles n'ont pas été traitées. Est-ce que c'était par choix, par manque de sources, faire un deuxième livre
Il y a un peu de tout. Au début, on avait prévu de faire un chapitre là-dessus. Aucun d'entre nous, là, n'était spécialiste. Donc, il aurait vraiment fallu... Or, il n'y a pas beaucoup de spécialistes en France. Alors, il y en avait une qui on en a parlé, mais bon, alors, ça n'intéressait pas trop de... Elle ne voulait pas faire un ouvrage de vulgarisation, elle était plus... Il y avait un peu cette difficulté, parce qu'il y a des trucs, il y a une révolution en Éthiopie, il y avait les... Donc on a plutôt choisi d'en parler dans différents chapitres, les révolutions d'indépendance, on en parle dans les révolutions arabes, on en parle dans l'Iran, on en parle dans les mouvements 60-70, on a fait des encarts, on a beaucoup parlé des révolutions africaines dans les encarts pour montrer justement la diffusion du guévarisme.
Oui,
notre souci, c'était quand même à la fois de faire un livre grand public, mais on voulait vraiment que ce soit inattaquable scientifiquement. Et là... on n'avait pas suffisamment de solidité scientifique pour être sûr de... Donc, on a préféré assurer sur ce qu'on savait plutôt que de prendre le risque de faire un chapitre un peu bancal. En plus, c'est très, très éclaté. Donc, les mettre tout ensemble, c'est un peu artificiel. Ça fait on les met ensemble parce que c'est en Afrique. Affaire. Ça peut être un peu dangereux, en plus, de les mettre ensemble sous prétexte parce qu'ils ont la même couleur quand ils la font. Donc, on s'est senti trop fragile et on a préféré... prendre le risque de ne pas les traiter suffisamment plutôt que de les traiter mal.
D'accord. Non, mais la réponse est tout à fait honorable. Je voulais vous poser la question parce qu'effectivement, ça m'avait un petit peu intriguée. Je voudrais revenir sur l'un des symboles forts de la Révolution, qui est la liberté guidant le peuple. Donc le tableau peint par Delacroix en 1830, où la liberté est incarnée par une femme. Vous avez consacré un chapitre sur les femmes révolutionnaires. Pour quelles raisons il y en a si peu de connues et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le rôle de ces femmes et l'évolution de leur rôle dans les révolutions, s'il vous plaît ?
Alors, les femmes, elles ont toujours été présentes dans les révolutions, toujours. Elles sont, présentes, place de la Bastille, c'est elles qui vont chercher le roi. Enfin, il y a des femmes, peut-être pas les révolutions anglaises, mais la révolution américaine, il y a des femmes. Donc les femmes sont présentes. Ce qu'il y a, c'est que déjà, dans le moment du combat, ça c'est le poids des habitus, on leur donne des tâches qui sont les tâches qu'on pense dévolues aux femmes. C'est-à-dire que la femme, elle arrive pour prendre, elle est sur la barricade, et puis on lui dit, tu vas préparer les torchons pour soigner les blessés, ou t'es gentille, mais tu vas faire les cartouches. Donc la plupart des femmes, on leur demande ce type de rôle. Alors, certaines arrivent à en sortir dans la Révolution de 1830. Bon, c'est un peu aussi une figure imposée du récit, mais elles s'habillent en hommes et elles arrivent sur les barricades déguisées en hommes. Et là, on leur file un fusil puisqu'on ne s'est pas rendu compte que c'est des femmes. Et puis, quand elles meurent, il y a plusieurs sources qui racontent ça, dont certaines sont des sources policières. Donc, ce n'est pas simplement pour faire une mise en scène de la Révolution. C'est-à-dire que le combattant est blessé, on le récupère, on l'amène à l'hôpital et puis on se rend compte que c'est une femme. Donc, il y a des femmes qu'on essaie de combattre, mais... on ne leur laisse pas de la place. Il y a un poids d'une image de la femme qui, donnant la vie, ne peut pas donner la mort. Enfin, ce qui fait qu'on les écarte des armées. Bon. Et puis, le 19e siècle est particulièrement... il est beaucoup plus dur que le 18e. Oui. Hein. Le 18e accepte beaucoup plus que la femme combatte. La femme est présente dans les armées. Le 19e siècle est beaucoup plus machiste, d'une certaine façon. Donc, on les écarte. Alors, au fur et à mesure, elles arrivent à obtenir un petit peu plus. il y a plus de combattantes en 48 qu'en 30 et plus pendant la Commune que parce que les progrès de l'organisation féminine, parce que la reconnaissance de leur place, puis parce que le fait qu'elles envahissent aussi le monde du travail et qu'on est bien obligé de leur mettre un peu, de leur reconnaître un certain nombre de places, mais même sous la Commune. Louise Michel, elle va voir les communards, elle leur dit, mais moi, je vous monte un bataillon, j'ai plein de femmes, on fait un bataillon de femmes, on a une barricade de femmes. Non, 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 vous allez faire l'assistance et puis la soupe populaire. Et voilà, et y a un texte magnifique d'André Léo, qui est une femme par ailleurs, mais qui avait pris un nom d'homme, et qui après la Révolution, elle s'adresse à une assemblée de socialistes, après la Commune, hein, elle s'adresse à des socialistes, et elle dit « Ça fait un siècle que vous essayez de faire la Révolution sans les femmes, et vous voyez bien que ça ne marche pas, arrêtons, faisons la Révolution avec les femmes. » Mais bon, le mouvement socialiste ne leur laissera pas beaucoup de place non plus. Donc c'est ça aussi qui fait qu'elles sont à l'écart. Donc elles restent, soit c'est des allégories, voilà, qui sont, mais alors que concrètement, enfin, elles sont présentes. Et puis de fait, il en fallait des gens pour soigner les blessés, pour préparer une. Enfin, si vous relisez Les Misérables, sans les femmes qui font les cartouches, à l'époque, les cartouches on les achète pas toutes faites. Faut quelqu'un qui s'amuse à mettre la poudre pour charger les fusils. Donc sans les femmes, vous avez pas de révolution.
Et est-ce qu'au XXIe siècle, notamment au printemps arabe, les femmes ont eu un rôle un peu plus prépondérant ou pas?
Alors elles ont eu un rôle dans les révolutions quand elles sont dans leur phase plus populaire, plus civile, hein, ça c'est net. Hein. Elles sont, il y a des photos d'ailleurs, mais on les voit très présentes à Tunis, en Égypte. Bon, la révolution quand elle se militarise exclut les femmes parce qu'on reste dans une habitude d'exclure les femmes de la militarisation, et elle exclut les femmes aussi dans les dimensions plus islamistes parce que là c'est
la place de la femme.
Mais c'est pareil dans les révolutions cubaines. Le poids du machisme dans les pays d'Amérique du Sud fait que dans la révolution cubaine, la femme a un rôle très, 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 très limité. Là où elles ont eu le plus de place, les femmes, c'est dans les mouvements révolutionnaires des années 60-70 occidentaux, parce que c'est aussi la conséquence de l'émancipation féminine dans ces espaces-là. Et là, il y a des femmes qui dirigent la plupart des mouvements révolutionnaires de ces années-là sont dirigés par des femmes.
Merci pour ces éclaircissements. Pour conclure, avant de vous laisser la parole, est-ce qu'on peut dégager un socle de valeurs communes à l'ensemble de ces révolutions qui ont traversé l'humanité? Est-ce qu'il y a des gros points communs à tous ces mouvements?
C'est un peu difficile. Alors, on peut dire que la grande majorité sont libérales, au sens où elles se battent pour les libertés, contre toute forme d'autoritarisme, etc. Beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait au départ, c'est quelque chose qu'on a vraiment compris en faisant le livre, beaucoup sont nationales au sens où elles sont contre un impérialisme qui peut être colonial ou qui peut être un impérialisme européen dans les révolutions d'Europe de 48, par exemple, ou sans être coloniale, contre une présence étrangère. La révolution iranienne, par exemple, est fondamentalement nationaliste et anti-impérialiste. On renverse le chat parce qu'on dit que c'est une marionnette des États-Unis. Et après, beaucoup, mais pas toutes, sont sociales, dans un souci de distribution de la terre, distribution des richesses, etc. Donc on pourrait dire que c'est ça, que le socle est là. Après, ça s'articule différemment selon les contextes et que le mot liberté ne veut pas dire forcément la même chose dans différentes révolutions et ne veut pas forcément dire la même chose chez les acteurs d'une même révolution.
Oui, on se rend compte en lisant le livre qu'au sein même des révolutionnaires, il y avait des désaccords parfois profonds et des mouvements révolutionnaires qui pouvaient être... Parfois, en fait, le mouvement révolutionnaire pouvait rassembler des gens.
En fait, la révolution, c'est une espèce de moment un peu magique de fusion de gens qui ne partagent pas les mêmes idées, qui n'appartiennent pas aux mêmes classes sociales, qui n'ont pas les mêmes cultures politiques, les mêmes habitudes. Il y a un moment où ça se précipite presque au sens chimique, ça dure pas très longtemps et après ça explose. Mais il y a ce moment de fusion qui fait que parfois des extrêmes, je retourne à la révolution iranienne, mais il y a des marxistes, il y a des libéraux, il y a des islamistes.
C'est je crois la plus étonnante. Hein,
qu'on la connaît peu aussi. Oui. Mais pareil dans la révolution française aussi, d'une certaine façon, parce qu'il y a des républicains, il y a des monarchistes, il y a des libéraux, il y a le peuple, il y a les paysans, il y a de tout. Et c'est un moment où c'est ça qu'on sent dans la révolution. et qui fait qu'on se... Je pense que quand on lit les textes produits au moment des révolutions, il y a cette prise de conscience à chaque fois. Mmh. Avec, bon, c'est très vécu au 19e siècle comme dans sa dimension interclassique, l'ouvrier parle au bourgeois. Et il n'y a que à ces moments-là, donc il y a beaucoup d'affiches où on voit un ouvrier qui serre la main à un bourgeois parce que c'est la révolution. Et souvent, le moment de sortie est illustré par la reprise de la division des différentes classes sociales et chacun reprend l'espace dans lequel il est habitué à avoir sa sociabilité, il ne se mélange plus dans un même espace.
Oui, ce qui est assez intéressant. À constater. Eh bien, Mathilde Larère, merci beaucoup
pour
cette rencontre et merci à vous d'être venue.